RFI, 8h à Paris, 6h en temps universel. Bonjour Gaëtan Plenel.
Ah bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une de ce journal, un nouvel épisode de notre série de reportages au Soudan.
Et ce matin, on vous emmène à la rencontre de ces réfugiés qui ont décidé de rentrer à Khartoum, reprise, c'est vrai, par l'armée régulière en mars dernier, mais toujours théâtre de combat avec les FSR. On sera aussi en Syrie, à théâtre, elle, de nouveaux bombardements israéliens cette nuit. Le pays a même connu ses frappes les plus violentes depuis le début de l'année, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans ce journal également, les tensions toujours vives entre l'Inde et le Pakistan. La nouvelle attaque de Donald Trump contre Harvard. Cette fois, il veut s'en prendre au statut fiscal de cette université qui lui résiste. On va revenir aussi sur ce débat relancé en Allemagne. Interdire ou non l'AFD. En tout cas, le parti a été classé extrémiste de droite hier par le renseignement intérieur allemand. Et puis, on soufflera avec un petit peu d'avance les 40 bougies du chanteur camerounais Bendeka. 40 ans de carrière qu'il fêtera demain sur la scène de l'Olympia à Paris.
Des dizaines de jeunes arrêtés, 27 civils exécutés, bilan d'un collectif soudanais pro-démocratie.
L'Emergency Lawyers qui explique qu'ils ont été tués à En-Naroud par les paramilitaires des forces de soutien rapide qui ont pris le contrôle de cette ville du centre-ouest du pays. Une ville stratégique menant vers le Darfour, leur bastion historique. Alors difficile de vérifier ce bilan, il faut dire qu'accéder au Soudan est devenu très compliqué après ces deux années de guerre dévastatrice avec l'armée régulière. RFI y est tout de même parvenu et vous a proposé tout au long de la semaine une série de reportages à la rencontre de ces Soudanais meurtriers et inquiets, notamment dans la capitale Khartoum, reprise par l'armée au mois de mars. Si les combats continuent quand même dans l'ouest et le sud de la ville, des centaines de déplacés ont fait le choix de rentrer. Certains quittent Port-Soudan en train. Notre envoyé spécial Gaël Lalex a pu monter à bord. Reportage.
La ligne entre Port-Soudan et Atbara est le dernier vestige du chemin de fer soudanais. Avant la guerre, elle se poursuivait jusqu'à Khartoum. Mehdi Ibrahim Al-Khalifa charge ses valises.
Je suis à Port-Soudan en tant que déplacé. J'ai quitté Khartoum, suis passé par Atbara, puis le nord du pays. Ma maison à Khartoum était très belle. Maintenant, j'ai tout perdu. Mais Khartoum est de nouveau sûr et je rentre pour reconstruire ma vie.
Un enthousiasme que ne partage pas Moudissir Mohamed Al-Hassane. Il retourne à Omdurman, dans la banlieue ouest de Khartoum, mais les nouvelles ne sont pas bonnes.
Il n'y a rien à Omdurman. Pas de sécurité, pas de nourriture, pas d'eau.
Alors pourquoi est-ce que vous y retournez ?
C'est chez moi, c'est là que mes enfants vont à l'école. On va tout recommencer du début, on n'a plus rien.
Les combats qui se poursuivent dans la capitale n'inquiètent pas Daoula Kamal Saadala, qui rentre chez elle accompagnée de ses 6 enfants.
J'ai vu des photos de ma maison, elle est en désordre, mais je ne sais pas si elle est détruite. Si elle a été pillée, tant pis. Je suis restée chez moi le plus longtemps possible, même avec la guerre. Je ne suis partie qu'à cause de mon fils qui a un problème au cœur.
Le train mettra près de 12 heures à parcourir les 500 km qui séparent Port-Soudan d'Atbara. C'est en bus qu'il faudra ensuite rejoindre la capitale. Gaël Lalex, de retour de Port-Soudan, Nairobi, RFI.
Et notre série de reportages au Soudan est à retrouver sur RFI.fr et sur notre application Pure Radio.
Autre reportage ce matin sur RFI, et là encore, des habitants inquiets.
À Damas, cette fois en Syrie, alors que le pays a été visé cette nuit par plus d'une vingtaine de frappes israéliennes contre des entrepôts et des sites militaires, notamment à Dera, non loin de la capitale. Un mort, d'après l'agence officielle syrienne Sana. Hier à l'aube, l'armée israélienne avait déjà frappé les abords du palais présidentiel de Damas. Une mise en garde, disait-elle alors, contre toute atteinte à la minorité druze, après plusieurs jours d'affrontements avec des milices pro-gouvernementales qui auraient déjà fait ces affrontements plus d'une centaine de morts. De quoi alimenter forcément la crainte des Damascènes sur la capacité des nouvelles autorités à garantir leur sécurité, alimenter aussi leur sentiment d'abandon de plus en plus profond. Reportage de Mohamed Erami.
Les rues de Damas sont calmes en ce vendredi, mais une forme de calme étrange, pesant, beaucoup plus calme qu'à l'ordinaire. Ce matin, les habitants ont été réveillés par l'annonce des bombardements israéliens sur la zone de Kassioun, cette montagne qui surplombe Damas. Juste en contrebas, le quartier de Mezeh, là, la peur s'est glissée dans le quotidien. Omar tient une supérette dans le quartier, il est assis sur une chaise en plastique devant son commerce, les yeux rivés vers la montagne, il regarde le ciel, il parle avec colère d'Israël.
Nous n'avons ni armée réelle, ni aviation, ni système de défense capable de nous protéger contre les attaques israéliennes. Israël suit son projet bien défini pour la région et il semble décidé à avancer, que les pays arabes l'acceptent ou non.
Mohamed, 18 ans, discute des frappes avec ses amis. Revenu à Damas en 2022 après l'exil au Liban, il espérait une vie normale. Mais la guerre, il la connaît.
Israël est au cœur des conflits et c'est pour ça qu'il se présente en protecteur des Druzes. Mais avec un Israël en grand méchant loup, les milices étrangères présentes chez nous en profitent pour aggraver la situation.
Dans une Syrie fragmentée où les milices échappent aux chaînes de commandement et où les puissances étrangères dictent la temporalité des combats, l'inquiétude n'est plus un sentiment passager, elle est devenue une condition de survie. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Une cinquantaine de blessés hier en Ukraine, à Kharkiv, dans le nord-est du pays. Ce sont des responsables locaux qui avancent ce bilan. Ils parlent d'une attaque russe de drones.
La crainte d'une nouvelle guerre toujours vive au Cachemire.
Il y a d'abord eu cette attaque le 22 avril dernier au Cachemire indien. 26 civils tués et le Pakistan accusé par New Delhi d'en être responsable malgré les démentis d'Islamabad. Depuis, c'est l'escalade. Et hier, l'ambassadeur pakistanais aux Nations Unies a répété avoir des preuves de préparatifs de manœuvres militaires ordonnées par le premier ministre indien Narendra Modi. Mais l'ambassadeur apprenait aussi pour une diplomatie préventive afin d'éviter tout affrontement direct comme celui de 2019. Correspondance depuis New York de Karine Auton.
Le Pakistan dit avoir activé tous les acteurs internationaux possibles, a rencontré le patron de l'ONU deux fois cette semaine pour évoquer le dossier et lui demander d'intervenir auprès de l'Inde. Il espère même une possible médiation des États-Unis qui s'entendent bien avec les deux pays. Il continue à réclamer une enquête indépendante sur l'attentat meurtrier au Cachemire et prône la reprise du dialogue pour éviter une escalade qui pourrait se transformer en conflit régional, impactant potentiellement près de 2 milliards de civils. L'ambassadeur Asim Iftikhar Ahmad.
Il est tout à fait plausible qu'ils se préparent à ce genre d'action. Ils l'ont déjà fait en 2019. C'est pourquoi nous avertissons que toute agression déclencherait une nouvelle dynamique à laquelle le Pakistan serait contraint de réagir. Nous avons vu cela en 2019, une escalade très dangereuse. Nous ne voulons pas que cela se reproduise.
Par ailleurs, l'Inde a suspendu sa participation au traité sur les eaux de l'Indus après l'attentat au Cachemire qui garantit un accès à l'eau à plus de 40 millions de Pakistanais, ce qui s'apparente à un acte de guerre selon Islamabad. Karine Auton, New York, RFI.
Donald Trump, nouveau pape ?
Le président américain s'y voit en tout cas, à tel point qu'il a publié sur son réseau social un portrait de lui, a priori généré par intelligence artificielle. On le voit vêtu de la tenue du souverain pontife à quelques jours du début du conclave au Vatican pour élire le successeur de François.
Une image qu'on imagine ironique de la part d'un président qui ne se refuse rien.
Et qui va s'offrir un joli cadeau d'anniversaire le 14 juin prochain, date choisie sans que la coïncidence ne soit assumée, pour un défilé militaire à Washington à l'occasion du 250e anniversaire de la création de l'armée de terre américaine. Donald Trump dit vouloir rendre hommage aux soldats, aux vétérans et à l'histoire militaire américaine.
Car Donald Trump aime l'armée, visiblement en tout cas plus que les universités.
Et celle d'Harvard en particulier, il avait déjà, on s'en rappelle, gelé une partie de son financement fédéral. Voilà maintenant qu'il veut s'en prendre à son statut fiscal. Il accuse le campus d'avoir laissé prospérer une atmosphère antisémite. Alors l'exemption fiscale d'Harvard, nous allons la faire sauter, ils l'ont bien mérité, prévient Donald Trump. Une exemption dont Harvard n'est pas la seule à bénéficier, Vincent Sourieux, c'est le cas de l'immense majorité des facultés américaines.
Publiques ou privées, elles sont considérées comme des organisations à but non lucratif. C'est le cas d'environ 2 millions d'entités sur le sol américain, ce qui entraîne deux spécificités. Un, elles ne payent pas l'impôt sur le revenu. Deux, si vous faites un don à un établissement universitaire aux États-Unis, vous obtiendrez une déduction fiscale, c'est l'article 503 du Code des impôts qui les protège au nom de leur mission d'éducation. Dans un communiqué publié très vite après les déclarations de Donald Trump, Harvard estime que c'est un statut gagnant-gagnant. Moins de taxes à payer, c'est plus de bourses pour les étudiants et plus de moyens pour la recherche, écrit l'université qui ajoute « Il n'y a aucune base légale pour abroger ce statut. Autrement dit, Harvard s'apprête à contester cette mesure devant les services fiscaux. Et si le dossier va jusqu'en justice, l'administration Trump va devoir prouver une faute fiscale de la faculté. D'après les experts consultés par la presse américaine, il y a peu de chances que la Maison-Blanche obtienne gain de cause.
Vincent Sorio du service international de RFI.
Le vice-président américain J.D. Vance l'affirme, lui, l'Allemagne a reconstruit le mur de Berlin.
Une interprétation très personnelle de cette décision du renseignement intérieur allemand hier. Le parti AfD, Alternative pour l'Allemagne, a été classé extrémiste de droite. Et à quelques jours de l'investiture du nouveau chancelier, ça relance évidemment le débat sur une éventuelle interdiction de ce parti en pleine ascension après sa percée historique lors des législatives de février dernier. Oui, mais l'interdire ne sera pas si facile, nous dit Éric-André Martin, spécialiste de la politique allemande.
Il y a des leaders de l'AfD qui sont presque néo-nazis, donc c'est connu, c'est indubitable. Mais ce sont des personnalités ou des fédérations ou des groupes qui sont déjà connus. Maintenant, entre des gens, des individus, des petits groupes qui se laissent aller à ce genre de propos ou à différentes provocations, etc., et interdire un parti dans son ensemble qui représente plus de 20% de l'électorat, il y a quand même une marge. Et je pense que le débat est là. L'intérêt des dirigeants de l'AfD, c'est aussi de se poser en victime pour dire, regardez, voilà comment on est traité, etc. Ça fait partie aussi de leur jeu politique. Donc c'est pas très étonnant qu'ils réagissent de cette façon. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir comment les autres partis vont réagir. Est-ce qu'ils iront jusqu'à appuyer une demande d'interdiction, ou bien est-ce qu'ils considéreront qu'effectivement, il faut trouver d'autres réponses plus politiques pour arriver à regagner cet électorat?
Des propos recueillis par Julien Chavanne. Les Australiens aux urnes depuis quelques heures, élections législatives après une campagne marquée par le pouvoir d'achat, mais aussi par la question des droits de douane américains. Un scrutin crucial pour le Premier ministre travailliste Anthony Albanese. Ça va déterminer son avenir à la tête du gouvernement. Il part quand même favori d'après les derniers sondages.
Et puis on termine en musique avec une figure emblématique de la musique africaine et camerounaise.
Le chanteur Bendeka qui s'offre une scène mythique demain pour fêter ses 40 ans de carrière. L'Olympia de Paris. Et c'est bien mérité pour celui qui a contribué à donner ses lettres de noblesse au Makossa, ce rythme né dans son pays, Edmond Sadaka.
Derrière ses lunettes noires et sa coiffe traditionnelle, Bendeka fait partie depuis longtemps des grandes voix du Makossa, la musique de la région de Douala, située sur la côte du Cameroun. À l'Olympia, accompagné de son orchestre, il viendra interpréter quelques-uns de ses titres incontournables comme « Souffrance d'amour » ou encore « Amour à sens unique ». Le premier contact de Bendeka avec la musique s'est fait par le plus pur des hasards. Alors qu'il était en France pour y poursuivre des études, un ami l'entend chanter et lui propose tout simplement d'enregistrer. Tout ira ensuite très vite. Premier album solo en 1981, plus d'une vingtaine vont suivre. Bendeka, 67 ans aujourd'hui, chante essentiellement l'amour en français et en langue douala. Son influence dépasse depuis longtemps les frontières de son Cameroun natal et rassemble une large communauté de fans dans les diasporas africaines.
Aîné du chanteur Bendeka qui sera donc sur la scène de l'Olympia demain à Paris.
Merci Gaëtan Plenet. RFI Matin dans 5 minutes. Notre invité, le médecin palestinien Izzeldine Abouelaïch. Mais tout de suite, c'est le journal des sports. Avec vous, Antoine Grenier, le football en France et Paris doublement magique désormais. Non,
retenez ce nom-là, le Paris Football Club a validé sa montée en Ligue 1 dans l'élite en obtenant un nul un partout à Martigues, conjugué au spectaculaire nul du FC Metz. 3-3 contre Rodez, ce résultat valide la montée du Paris FC. Deux clubs parisiens en première division, du jamais vu depuis la saison 1989-1990, Babacardien.
Le football parisien ne va plus regarder ses homologues du rugby avec jalousie. Paris aura son derby du ballon rond la saison prochaine, entre le Paris Saint-Germain champion de France en titre et le Paris Football Club, un promu pas si banal, car les deux clubs ont une histoire commune. Au début des années 70, ils avaient vécu une scission, le PFC ne s'en est jamais remise à cause de problèmes financiers. Une descente aux enfers jusqu'en division d'honneur, l'équivalent du 5e échelon français. Cette traversée du désert a pris fin au milieu des années 2010 avec le retour au professionnalisme du club parisien. Première étape sur le chemin de la Ligue 1. Ces dernières saisons, les ambitions de monter avaient été freinées par 3 fois lors de barrages de fin de saison. Mais cette saison aura été la bonne avec une montée directe. Le projet a même pris une toute autre ampleur avec l'arrivée de la famille Arnaud au capital du club à l'automne dernier. Désormais, le Paris FC, souvent moqué pour son itinérance au niveau des stades, va prendre place au stade Jean-Bouin face au Parc des Princes, au moins pour les quatre prochaines saisons. Une nouvelle rivalité est peut-être née.
Babacar Diarra, et avant d'affronter le Paris FC la saison prochaine en championnat, le Paris Saint-Germain expédie les affaires courantes.
Déjà champion, privé du record d'invincibilité en Ligue 1 par Nice, le PSG se déplace à Strasbourg. Sa seule mission, gérer l'effectif et la récupération avant le match retour contre Arsenal, mercredi en Ligue des Champions. Strasbourg-PSG, coup d'envoi 15h, temps universel. 32e journée qui verra également Toulouse accueillir Rennes et Saint-Etienne, 17e en quête d'oxygène, se déplacer sur la pelouse de Monaco, 5e en lutte pour le sommet.
En Angleterre, la Première Ligue, Manchester City reste dans le bon wagon.
En match avancé de la 35e journée, les Citizens ont dominé Wolverhampton 1-0. De quoi permettre aux joueurs de Pep Guardiola de reprendre provisoirement la 3e place avant la suite de cette journée. Arsenal, notamment 2e, accueille Bournemouth à 16h30, temps universel.
Enfin du basket et cette annonce en NBA, Greg Popovich quitte les Spurs de San Antonio.
La fin d'une époque, après 29 saisons sur le banc, coach Pop prend sa retraite. Lui qui aura mené les Texans à 5 titres, dont 4 avec le meneur français Tony Parker, avant de prendre en main le destin d'un autre Frenchie, Victor Wembanyama.
Merci Antoine Grenier. C'est un défenseur de la paix, de la justice et de la coexistence que nous recevons ce matin sur RFI. Lui qui s'était fait connaître en devenant le premier médecin de Gaza à traverser chaque jour la frontière de l'enclave pour exercer son métier dans un hôpital israélien. Le docteur Izzeldin Abouelaïch est un homme qui continue aujourd'hui de dire non à la haine, tout en se battant pour son peuple et pour obtenir justice de l'État d'Israël. Son nom et son visage ont fait le tour du monde en 2009 quand un char de l'armée israélienne a tiré sur sa maison, tuant 3 de ses filles et l'une de ses nièces. Il a depuis créé la fondation Daughter for Life en leur honneur et pour promouvoir l'éducation des jeunes femmes au Moyen-Orient. On l'a surnommé le Martin Luther King du Moyen-Orient et il a été nominé 5 fois pour le prix Nobel de la paix. Notre grand invité international ce matin. Bonjour, Izzeldin Abouelaïch.
Good morning, thank you so much.
Et merci d'être avec nous, alors qu'aujourd'hui le film Un médecin pour la paix, sorti notamment en France, retrace votre vie et montre votre combat à un moment où il prend tout son sens. Nous sommes près d'un an et demi après les massacres commis par le Hamas le 7 octobre 2023 et le début de la guerre dans la bande de Gaza. Peu de temps après le 7 octobre, vous disiez espérer que cette crise puisse être l'occasion de parvenir à la paix entre Israéliens et Palestiniens. Depuis, l'offensive israélienne a tué plus de 50 000 personnes à Gaza, dont de nombreux membres de votre famille, notamment l'une de vos sœurs. Comment vous sentez-vous depuis le début de cette guerre ?
For the last year and a half, which is a nightmare.
Depuis un an et demi, c'est un cauchemar. C'est une situation épouvantable. Je l'avais déjà vécu lorsque mes filles ont été tuées. Et cela ne remonte pas au 7 octobre. Mes filles ont été tuées le 16 janvier 2009. Puis il y a eu la guerre, en 2012, en 2014, en 2018, en 2020, en 2021, puis en 2023. Ce que vit le peuple palestinien, ce sont des souffrances continues, persistantes et qui s'accumulent. La guerre n'a pas commencé le 7 octobre. C'est ce qui me met en colère et me fait souffrir. La guerre devrait être empêchée, évitée. Elle ne doit pas juste se répéter devant un monde qui la regarde et reste silencieux. Je pense que cette guerre aurait pu être évitée. Pas aujourd'hui, il y a des années. Et ce, en mettant fin à l'élément déclencheur principal, l'occupation. Je souffre quand je vois les Palestiniens tués, affamés, quand je vois les destructions de masse, les déplacements de masse, les meurtres de masse, les punitions collectives de masse. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre. C'est une crise de l'humanité. C'est un génocide. Et le plus douloureux, c'est que ça se passe en direct.
It's happening live.
Vous avez donc vous-même été victime de la violence de l'armée israélienne à Gaza. Vous avez perdu, je le disais, 3 de vos filles et une nièce en 2009 lors du bombardement de votre maison, alors que vous étiez au téléphone avec un journaliste israélien en direct à la télévision pour tenter d'éloigner ce char israélien qui vous visait. Pouvez-vous nous dire ce dont vous vous souvenez de cette tragédie ?
Bien sûr que je m'en souviens. Cette tragédie vit avec moi. Elle m'accompagne. Je la vois dans chaque enfant palestinien aujourd'hui, dans les membres de ma famille, ma sœur, mes neveux, mes nièces qui ont été assassinées. Ce jour-là, j'étais chez moi. Les bombardements venaient de partout et le pire, c'est la peur. Quand vous ne savez pas qui va être tué ensuite parmi vos enfants. Ce jour-là, j'ai donc placé les enfants dans différents endroits, trois sur un mur, trois sur l'autre, trois sur encore un autre mur au cas où un bombardement surviendrait pour que nous ne soyons pas tous tués d'un seul coup. Lorsqu'ils ont bombardé ma maison, je n'y croyais pas. Il y avait des explosions partout, comme ça se passe maintenant en direct. Quand je suis rentré dans la chambre de ma fille, j'ai crié « Où est Bissan ? Où est Maya ? Où est Aya ? Où est Nour, ma nièce ?» Elles n'étaient plus que des morceaux, noyés dans leur sang. Je ne pouvais pas les reconnaître. Maya, cette fille belle et brillante dont j'étais si fier, a été décapitée. Elles étaient en morceaux, déchiquetées partout.
This is the most painful. To feel your loved ones murdered.
C'est la pire des douleurs. Voir ses proches assassinés devant soi pour rien. Elles ont été tuées sans raison. Il n'y a aucune raison de tuer un être humain innocent.
I lost faith at that time.
À ce moment-là, j'ai perdu la foi en l'humanité. Puis en tant que personne croyante, j'ai demandé de l'aide à Dieu, comme je le fais pour ce qui se passe à présent pour le peuple palestinien.
Et un moment très frappant de ce film qui retrace votre vie, ce sont ces images de vous, juste après l'attaque qui a tué vos filles. Vous êtes dans le hall de l'hôpital, devant les caméras, et vous parlez non pas de vengeance, mais de coexistence et de paix. Comment avez-vous surmonté la haine que tant de personnes auraient ressentie à votre place ?
C'est important parce qu'après tout ce que j'ai vécu, les gens attendaient de moi, en tant que Palestinien, un sentiment de haine. Mais toute ma vie, j'ai connu la guerre. Et si j'avais cédé à la haine, je ne serais pas ici avec vous. Qu'est-ce que la haine ? Pour moi, la haine n'est pas un simple sentiment. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une attitude ou un comportement. La haine est une maladie contagieuse et destructrice. Mais elle a ses causes. Les causes sont l'exposition au mal. Lorsque les Palestiniens sont exposés à ce génocide, cela déclenche la haine, la colère, l'indignation. Et pas seulement chez les Palestiniens. Même les gens, les êtres humains qui regardent ce qui leur arrive peuvent être en colère. Je ne permettrai donc jamais à la haine de s'approcher de moi, car c'est là que je serai brisé, je serai vaincu. La haine est un poison, c'est un feu qui brûle tout ce qu'elle touche. Je sais que la blessure est grande, alors je dois continuer à avancer pour défendre ceux qui ont été assassinés et tués, pour qu'ils continuent d'exister. Et ce n'est pas avec la haine qu'on avance, mais avec du courage, avec de la détermination, en s'exprimant avec résilience, en ne baissant pas les bras et en n'oubliant pas les victimes. Lorsque je parle de coexistence, qu'est-ce que la coexistence ? La coexistence n'est pas un simple mot.
Coexistence based on what ? Coexistence should be based on equality.
La coexistence doit être fondée sur l'égalité, sur la dignité pour tous, sur le respect pour tous, sur la justice pour tous, sur les droits pour tous. C'est ça la coexistence. Personne ne peut coexister sous oppression, sous occupation, sous intimidation avec de la souffrance.
I can't coexist with the disease. We want to overcome the disease, and that's the coexistence, and we need to promote.
Nous devons promouvoir la coexistence comme un but ultime. Mais nous avons besoin des moyens que j'ai mentionnés pour y parvenir, et plus important encore, que l'état de droit soit soutenu et appuyé dans notre monde. Ce sont là les garanties d'un monde sûr, durable et sécurisé.
J'aimerais vous poser des questions sur l'avenir. Vous êtes connu pour avoir critiqué le Hamas, on le voit dans le film, lors d'une conversation avec vos frères. Aujourd'hui, après les attaques perpétrées par le Hamas qui ont tué près de 1200 personnes en Israël, et alors qu'il retient toujours plusieurs dizaines d'otages, que devrait être, selon vous, l'avenir du Hamas en tant que groupe et en tant qu'entité politique lorsque la guerre sera terminée ?
C'est important. Le monde doit comprendre que nous, les Palestiniens, avons la liberté d'expression. Nous critiquons tous ceux qui n'agissent pas comme il faut. Mais les gens voient les Palestiniens que par le prisme du Hamas. Le Hamas est une partie du peuple palestinien, mais il ne représente pas le peuple palestinien. J'aimerais que la situation se termine de manière pacifique, que ce génocide prenne fin, que des élections aient lieu et que le peuple palestinien soit libre d'élire ses nouveaux dirigeants par le biais d'élections, de la même manière que le Hamas est arrivé au pouvoir par des élections. Le peuple palestinien est en mesure de tirer les leçons du passé, de choisir le bon représentant la bonne gouvernance pour le diriger. Mais nous avons besoin que le monde entier se lève et soutienne ces élections et demande à Israël de se conformer au droit international, d'organiser des élections dans tous les territoires palestiniens occupés, dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem.
Izzeldin Abouelaïch, vos parents et votre famille ont été victimes de la Nakba en 1948, le déplacement forcé de centaines de milliers de Palestiniens au moment de la création de l'État d'Israël. Comment avez-vous réagi? Qu'avez-vous ressenti lorsque Donald Trump a envisagé de déplacer de force la population de Gaza? Craignez-vous que ce qui est arrivé à la génération de vos parents ne se reproduise aujourd'hui?
Of course, I fear. But it shows me this world, we live in jungle.
Bien sûr que j'ai peur, parce que cela montre que nous vivons dans une jungle. Il n'y a pas de règles de droit. Où est le monde pour lui dire que cette proposition viole le droit international, que ce serait un crime contre l'humanité? Si ça se produisait, il devrait être traduit devant la CPI en tant que criminel de guerre, car cela voudrait dire qu'il mettrait en œuvre un nettoyage ethnique. Ne posez pas la question aux victimes, posez-la à ceux qui regardent et à ceux qui parlent des droits de l'homme. Il faut que les voix s'élèvent à ce sujet. Mais je ne suis pas inquiet. La bande de Gaza et la Palestine étaient un paradis avant même la création des États-Unis. La bande de Gaza n'est pas à vendre et Trump n'a pas les moyens d'en payer le prix.
I have a few pieces of land in Gaza Strip. All Trump's towers can't satisfy me with one piece.
J'ai quelques terrains dans la bande de Gaza. Aucune tour de Trump ne suffirait pour m'acheter le moindre morceau de terre, parce que le sol de la bande de Gaza est mélangé avec le sang du peuple palestinien, avec les corps, avec la chair des Palestiniens. La bande de Gaza est aujourd'hui un cimetière, elle n'est pas à vendre. Elle est pour ceux qui vont la valoriser, pour ceux qui sont déterminés à ce que ces âmes saintes, à ce que le sang des victimes soit transfusé dans une veine d'espoir, de justice, de dignité, de liberté et d'un futur État palestinien indépendant.
Of hope, of justice, dignity, freedom, and the future independent Palestinian state.
Je voudrais terminer, si vous le permettez, sur une note plus personnelle. Vous avez vous-même quitté la bande de Gaza il y a quelques années, principalement pour vous protéger, vous et votre famille. Mais avant 2023, vous y retourniez souvent, comme on le voit dans le film. Qu'est-ce qui vous manque le plus de chez vous aujourd'hui?
Je n'ai pas quitté Gaza, et Gaza ne me quittera jamais. Elle est dans mon cœur, elle est dans mon âme, elle est toujours avec moi. Ce n'est pas moi qui vous parle, c'est Gaza, le peuple palestinien de Gaza. Cet endroit me manque, et la première chose que je ferai quand j'y retournerai, c'est de me rendre sur les tombes détruites de mes filles, pour leur dire que nous n'avons pas oublié, que nous n'avons pas abandonné, que nous reviendrons. Que nous sommes le sel de cette terre.
I want to go to walk in the streets, to see the rubble, to smell the breath of the people that I know who were murdered.
Je veux y aller, marcher dans les rues, voir les décombres, sentir le souffle des gens que je connais qui ont été assassinés. Et les souvenirs. Je veux aller voir parmi les décombres de ce qui reste des affaires de mes filles que nous avons laissées derrière nous. Je veux renouveler le serment que j'ai fait à mes filles et à notre peuple, qu'on ne se reposera jamais, qu'on ne se relâchera jamais, qu'on n'abandonnera jamais, qu'on n'oubliera jamais. Parce que je crois que je reverrai mon peuple un jour pour jouer mon rôle dans ce monde, pour parler et pour leur apporter la justice, la liberté et l'indépendance.
To speak out and to bring them justice, freedom and independence.
Izzeldin Abouelaïch, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin sur RFI.
Thank you so much.
Et le film qui vous est consacré, Un médecin pour la paix de la réalisatrice Tal Barda, est sorti en France le 23 avril dernier.
Ah, les plages de sable fin, la nature luxuriante, les coquillages et la censure. De nombreux pays sont des paradis pour les touristes, mais un véritable enfer pour les journalistes. Découvrez le classement mondial de la liberté de la presse 2025 de Reporters sans frontières sur rsf.org. Attention, une fois informé, vous pourriez revoir vos projets de vacances.
La Nuit européenne des musées est de retour samedi 17 mai. Le ministère de la Culture invite à découvrir les musées autrement. Dès la nuit tombée, profitez gratuitement d'une programmation exceptionnelle partout en France et en Europe. Au programme, visite à la lampe torche, spectacles, concerts, circuits, ateliers, pour une soirée unique. La Nuit européenne des musées, le samedi 17 mai. Plus d'informations sur nuitdesmusées.fr. En partenariat avec France Média Monde.
L'épopée des musiques noires.
Le bassiste et compositeur sénégalais Alou Nouad veut relier les deux rives de l'Atlantique dans un élan de célébration musicale. Avec New African Orleans, il fait le pont entre la source africaine du jazz et son développement américain. Enregistré à Lagos, Dakar et la Nouvelle-Orléans, l'album reflète la créolité musicale et l'héritage ancestral de ces villes. Joe Farmer nous propose de le découvrir dans l'épopée des musiques noires, tout à l'heure à 13h30 TU.
RFI.